France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Une réunion doit se tenir ce jeudi au ministère de l'économie à Paris pour évoquer l'avenir incertain de l'aciérie d'Ascoval dans le Nord. Une réunion présidée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire en présence des représentants syndicaux du site de Saint-Saulve ainsi que des élus de la région Hauts-de-France. A priori, les représentants de British Steel, le repreneur d'Ascoval, tout juste placé en liquidation judiciaire, ces représentants britanniques ne seront pas présents lors de cette réunion. Ces jours de vote en Grande-Bretagne, les Britanniques doivent élire 73 députés européens, des élus qui ne siégeront peut-être jamais à Bruxelles s'il y a un Brexit. Ce scrutin se déroule sur fond de crise politique profonde outre-Manche. Hier, la ministre chargée des relations avec le Parlement en Grande-Bretagne a quitté le gouvernement. Élection également ce jeudi aux Pays-Bas, où le parti eurosceptique et populiste est en tête des sondages, le parti Forum pour la démocratie de Thierry Baudet. En France, les élections européennes auront lieu dans 3 jours, ce dimanche. Et hier, 15 têtes de liste ou chefs de partis politiques ont débattu sur France Inter et France 2. 15 invités répartis en première et deuxième partie de soirée avec des échanges sur plusieurs thèmes, de l'écologie à la fiscalité. Le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, a notamment rappelé à la présidente frontiste Marine Le Pen son échec au second tour de la présidentielle il y a 2 ans. Par ailleurs, selon le dernier sondage Ipsos Soprasteria réalisé pour Radio France et France Télévisions, sachez que le Rassemblement National devance toujours de peu la liste de la majorité à 24% des intentions de vote contre 23,5%. Et puis les conditions ne sont pas réunies en Libye pour un cessez-le-feu. Voilà ce qu'a déclaré le maréchal Haftar hier à Paris après une entrevue avec Emmanuel Macron. Le président français a appelé le maréchal Haftar à reprendre le processus politique pour sortir la Libye du chaos, alors que l'intensité des combats redouble toujours aux portes de la capitale Tripoli.
Notre époque est-elle romanesque? Trump est-il un uburoi à l'américaine? Poutine un personnage de Gogol? Macron un Rastignac ou un bel ami? Dimanche 26 mai, France Culture s'installe aux Subsistances à Lyon, aux Assises internationales du roman. De 11h à midi, Émilie Aubry sera entourée de Bertrand Badi, politicien, Christine Ockrent et Gérard Courtois, journaliste, et Geneviève Brisac, écrivaine, éditrice. L'Esprit public, ce dimanche à 11h, en direct et en public aux Subsistances à Lyon. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Ah, quelle voix! C'est bien de se faire tirer du lit par une voix jazz. Marion Rampal est avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci d'être de plus en plus fidèle au réveil culturel. Tous les matins à la radio si vous êtes lève-tôt, ou alors en passant par le podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Marion Rampal donc, une chanteuse de jazz. Mais y a-t-il une manière particulière de chanter le jazz? On lui posera cette question. Le réveil culturel, c'est aussi un rendez-vous particulier tous les mois avec Olivier Delcroix du magazine Le Figaroscope. Bonjour Olivier Delcroix.
Bonjour Toufik.
Je vous demanderai pas de chanter. Je pourrais? Non, peut-être
non,
pas.
Non, surtout pas. Surtout après ce que vient de faire Marion Rampal. Ça tient pas la route pour ce que je fais. Hein.
C'est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Nasser Moussaoui.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Some gypsy spell marked on my bone. It says I'll always have to roam. But I still hold the ring of fire in which it burns for you and I. And I waited days, I waited nights, I waited years for you to say something about it. Now what about it? Looked for the you I knew, but he was nowhere to be found. He was nowhere to be found. He was nowhere to to be found. And I thought one day I might have to make a choice. One day I might have to pack this suitcase of mine and go to where the snow never threatens to fall. Yeah, go to where we all belong.
Règle numéro 1 pour chanter le jazz, il faut oublier son accent marseillais. Bonjour Marion Rampal.
Bonjour Sophie.
Vous êtes bien marseillaise?
Je suis bien marseillaise.
Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une manière particulière de chanter le jazz? Vous qui avez commencé par la pop?
C'est ça. J'ai commencé par des amours plutôt pop, folk, rock. Mais j'écoutais toujours du jazz à la maison. D'abord, mon grand-père en jouait. Il jouait du piano beaucoup. Et puis, ma mère chantait pas mal de choses aussi. Alors, plutôt du jazz en français ou des choses de Michel Legrand. Puis, on écoutait beaucoup de jazz chez moi. Et c'est vrai que mes premières amours rock, en même temps, j'écoutais aussi sur une platine vinyle, justement, les CD Impulse de John Coltrane. Alors j'arrivais pas à écouter les choses jusqu'au bout, j'écoutais les thèmes et puis la moitié des solos parce que c'était trop renversant pour moi, et petit à petit je me suis initiée comme ça au jazz et puis les choses se sont mélangées.
Mais là par exemple, ce morceau qu'on vient d'entendre, extrait de votre dernier album Men Blue, c'est un morceau que vous avez écrit
oui.
Et pourquoi passer par l'anglais d'ailleurs?
J'avais toujours écrit en anglais depuis que j'ai 15 ans, à peu près 14-15 ans, mes premières chansons. J'ai toujours écrit en anglais, je pense avec un peu cette idée d'avoir une langue à moi, qui n'était pas forcément la langue qu'on parlait autour de moi. Avec aussi une grosse, un vrai coup de foudre pour la langue anglaise, pour les poètes en anglais. J'étais très fan de Leonard Cohen aussi, mais bon, de Emily Dickinson, de plein de poètes, un peu de plein d'époques. Et je me suis mise à écrire quand même un peu en français, et là ça vient un petit peu plus.
On va écouter d'ailleurs un morceau en français.
Mais en mettant un pied à la Nouvelle-Orléans justement. Enfin, c'est la Nouvelle-Orléans qui m'a donné envie d'écrire en français et de chanter en français.
Est-ce qu'il y a des vocalises propres au jazz? Est-ce qu'il y a une manière, pour revenir à la question, Marion Rampal?
Pour le jazz, je suis toujours un peu embêtée dans ces histoires de catégories et d'étiquettes du jazz. Il y a des idiomes, il y a un vocabulaire. Alors le vocabulaire swing, en tout cas d'improvisation, scat par exemple, ou bebop, scat à la voix, c'est quelque chose que moi je ne maîtrise pas assez pour en faire mon métier, et puis c'est peut-être pas vraiment mon instrument de prédilection. En revanche, il y a beaucoup de choses dans le blues, la soul music aussi. Il y a des inflexions, des libertés, des appuis aussi. Voilà, qu'on peut prendre. J'en ferai pas une théorie parce que ce sont des choses qui s'apprennent, enfin, que moi j'ai apprises plutôt par imprégnation, par initiation, sans forcément passer par des cours. J'ai plus appris sur la voix et le chant en cours d'expression vocale théâtrale en fait, que purement en cours de chant, enfin en école de musique. Voilà.
Est-ce que c'est vraiment différent de chanter avec un orchestre jazz, Marion Rampal, vous qui avez fait vos premiers pas plutôt dans la pop et dans le rock et dans la folk musique?
Il y a un rapport à la liberté et à la spontanéité dont aujourd'hui,
dans le jazz?
Oui, et avec les musiciens de jazz dont aujourd'hui moi j'aurais beaucoup de mal à me passer. Parce qu'il y a un rapport à l'instant, à l'accident, à l'invention sur le moment. Ceci dit, on pense que la pop est très formatée. Elle l'est sans doute pour ce qui est du format du disque. Mais il y a des musiciens de pop extraordinaires qu'on voit sur scène et qui, en fait, sont des improvisateurs géniaux. Donc c'est bon.
Low was the tidal, but high was the sun. Sang the song.
when every clock stopped for a delicious while, and it went back to spinning forever. It was there coming on in a rather.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Marion Rampal aujourd'hui. Marion Rampal, est-ce que les paroles, puisque vous êtes songwriter, comme on dit en bon français, est-ce que les paroles racontent un peu votre univers, ce que vous voyez, ou ce sont des mots qui épousent plutôt les musiques que vous composez ?
Ça dépend des morceaux.
Là en l'occurrence.
Alors là en l'occurrence non, c'est vraiment un travail de poésie que j'ai essayé de faire.
5 p.m. song,
c'est la chanson pour 5 heures de l'après-midi, qui est une heure pour moi qui est une heure un peu compliquée et un peu sublime aussi. C'est une heure où le soir tombe en fait, en tout cas l'hiver, où on a encore quelques heures à vivre avant de s'endormir et ça peut être un peu compliqué, un peu en demi-teinte, et j'avais envie de travailler là-dessus. C'est une chanson qui est très en référence à Leonard Cohen, c'est bien que ça vous l'évoque parce que j'ai vraiment essayé de penser très très fort à lui et à sa poésie en écrivant ça. Et j'écris une phrase comme finalement on peut s'asseoir, tu as le droit de t'asseoir à côté de la muse, mais tu peux pas regarder au fond de ses yeux. Et ça, c'est important à retenir quand tu veux rassembler les soupirs qui comptent. Parce que c'est un peu ce qu'on fait quand on écrit de la poésie. On essaye de rassembler les choses qui comptent. Peut-être pas de voir les choses, mais d'essayer de les voir. De poser des questions plutôt que de donner des réponses. Enfin, moi, c'est un peu mes motos, quoi, mes mots d'ordre quand j'écris une chanson comme ça.
Les paroles viennent en premier ?
Et les paroles peuvent venir en premier, ou des fois c'est plutôt de la musique, une ligne de basse ou des accords, une petite mélodie. Par exemple, sur la chanson qu'on a écoutée avant ça, j'avais cette phrase « nowhere to be found »,« nowhere to be found », et j'ai construit mon histoire et ma chanson autour de ça. Voilà.
Et pour vos musiciens, Marion Rampal, ce sont des gens que vous aimez, que vous admirez. Je vois que vous avez beaucoup travaillé avec Raphaël Imbert. Karchi Shep fait partie de ces musiciens qui vous ont entouré dernièrement, y compris pour cet album, Men Blue.
C'est souvent des rencontres, parce que je vais pas trop frapper aux portes, en fait. Donc c'est plutôt la vie qui m'offre des rencontres. Concernant Raphaël, c'est quelqu'un que j'ai écouté quand j'avais 19 ans, et je l'ai vu en concert, et je me suis dit, tiens, je veux faire cette musique. Je faisais du rock à l'époque. Je veux faire cette musique,
Marseille.
Et c'est avec ces gens que je veux jouer. Et il était avec son ensemble, il jouait la musique sacrée de Duke Ellington. Donc ça, c'était très fort pour moi de voir ce concert. Archie, je l'ai rencontré un peu par les hasards de la vie, et c'est un peu une initiation en fait que j'ai vécue auprès de lui depuis maintenant pas mal d'années. On partage plusieurs projets, et il m'apporte beaucoup. Dans le chant notamment, il m'apporte beaucoup. Et dans mon rapport à ces musiques-là, aux musiques jazz, aux grandes musiques noires aussi.
Alors comment se réapproprier ces musiques américaines, noires américaines ?
J'essaye d'y mettre quelque chose qui m'appartient. Je crois pas trop à l'étiquette... Ça peut être polémique, mais je pense que c'est bien d'avoir ces polémiques-là. Moi, je crois pas trop à l'étiquette de l'autre. Enfin, l'authenticité et la tradition, c'est des choses que je questionne toujours beaucoup. Parce que quand on est artiste, on invente. En fait, quand on est humain, on invente. Et les traditions ne sont jamais que des institutions d'invention humaine qu'on peut transmettre, évidemment, qu'on peut protéger, qu'on peut perpétuer. Enfin, on peut toujours parler de ce qui est... de ce qui est pur, pas pur, dans ces traditions-là. Moi, je suis une puriste de l'impureté, donc chanter du blues, ça me correspond bien. Voilà. Mais c'est aussi parce que je viens peut-être d'une culture, je pourrais dire que c'est parce que je suis méditerranéenne ou marseillaise et que je vis dans une ville de pirates et qu'on fait les choses comme des pirates. Ça me caractérise assez bien. Il y a une histoire en France très forte avec le jazz aussi et avec ces musiques-là.
Terre d'accueil des musiciens de jazz. jazz de la France, ouais.
Voilà, et puis un va-et-vient qui est toujours intéressant entre la musique américaine et la musique européenne, qui se poursuit tout le temps. Moi, j'aime bien interroger cette histoire-là. Bon, mon grand-père jouait du jazz, hein, il jouait pas du Vincent Scotto, il jouait pas l'opéra Mireille, donc j'ai plus grandi en entendant Misty et All of Me que...
D'accord, donc des standards américains.
Les standards de chez moi, ouais.
Et quelle est votre définition du jazz français, Marion Grandpal?
Oh là là, je pense que le jazz français, il se définit bien par la façon qu'il a d'exister. Quoi. C'est une scène très particulière qu'on a en France, qui est intéressante. Je crois qu'on aime bien se tirer des balles dans le pied et se disputer sur ce qui va être jazz, ce qui n'est pas assez jazz, sur... Et puis finalement, en fait, on réalise qu'on a plein d'artistes très créatifs, très intéressants, et puis qu'il y a encore de beaux moyens, surtout pour faire cette musique-là. Parce que quand on va aux États-Unis, on pense, nous, on a une image du jazz américain par quand même les accueils d'artistes en festival, les sorties de disques, bon, et toute l'histoire.
Et l'histoire des Noirs américains.
Oui, mais en fait, la France reste un pays, voilà, un pays de culture, un pays où il y a en fait beaucoup d'argent pour la culture et beaucoup de possibilités et d'endroits où faire, où inventer, où créer et où partager sur scène. Et il faut être content de ça, essayer de le maintenir et se battre pour le garder. Donc le jazz français, il a sa spécificité en fait de culture française, mais c'est... D'abord, il y a beaucoup de musiciens américains qui vivent en France. Archie Shepp, il est souvent en France et il a fait beaucoup de choses ici.
Il a plus vécu, oui. Alors qu'il est là, il a passé beaucoup plus d'années en France qu'aux États-Unis.
Ouais. Et puis, on a une histoire intéressante avec des coins. Je vais y dire des territoires, hein, mais moi je dis des coins qui sont voilà, où il y a des langues, des cultures aussi instrumentales. Donc il y a des gens fabuleux. Je pense à la Compagnie Luba, mais à d'autres gens plus jeunes comme les Vibrants Défricheurs. Ou bon, il y a plein de gens qui s'intéressent à voilà aux cultures un peu locales comme ça, un peu du coin ou du cru, et puis qui en font des choses fabuleuses avec l'improvisation jazzistique.
Vous serez demain en concert hein, dans le cadre du festival Jazz à Saint-Germain, avec que des femmes à la Maison des Océans. Marion Rampal, pourquoi ce choix que des femmes? Est-ce qu'il y a une spécificité du jazz au féminin?
Alors, je ne suis pas programmatrice du festival, mais c'est vrai que c'est Cécile Elrecchia qui fait l'autre partie du concert et qui a travaillé aussi sur la Nouvelle-Orléans pour son dernier disque. Je ne sais pas par qui elle a accompagné, mais dans mon trio à moi, il y a en effet une autre femme. C'est une grande bonne femme du jazz en France, puisqu'il s'agit d'Anne Passeo, batteuse, compositrice. Et puis, il y a un autre musicien qui n'est pas une femme, mais qui s'appelle Pierre-François Blanchard et qui joue les claviers. Voilà.
Et vous allez interpréter plutôt les titres de votre dernier album, Men Blue, Marion Rampal ou...
Ce sera autour de Men Blue et puis il y aura des nouvelles choses parce que c'est en travail et on est en train d'élaborer un nouveau disque voilà, qui sortira sans doute dans moins de 2 ans, mais qui est en train de se cuisiner aussi.
Et voilà. Il se cuisine en français, en marseillais, en anglais, dans une autre langue?
Il va se cuisiner dans toutes ces langues-là et j'espère dans d'autres aussi, parce que quand je me suis intéressée aux gestes du blues pour ce travail de Main Blues, j'avais quand même envie d'interroger les blues méditerranéens. Donc j'irai peut-être un peu regarder du côté aussi de la Corse, de Naples aussi. Je vais aller voir.
Auteur, compositrice, interprète, est-ce que vous êtes aussi musicienne, Marion Rampal?
Je joue du kazoo très très bien. Non mais c'est une blague, mais... enfin non c'est pas une blague, je joue vraiment du kazoo, mais je suis pas très aguerrie dès qu'il s'agit de comment dire, d'avoir un instrument entre les mains et puis surtout de chanter en même temps, ouais. Voilà. Allez. Mais je me sens musicienne avec la voix par contre.
Et là on va vous retrouver en version française, un autre extrait de votre album Men Blue, Marion Rampal sur France Culture.
Sur mon bateau ma belle, j'ai traversé les océans. Sur mon bateau, ma belle, j'ai navigué par tous les temps. Il m'a bien fait soleil dessus. Il m'a bien plu, il m'a bien plu. Si l'onde est calme, ma belle, j'irai chercher les beaux présents.
à hurler terre, ma belle, me reste l'ombre sous le champ. Le temps s'allant m'a fait si vieux, tout change autour en pas bien mieux. Longtemps rêvé, beaucoup pleuré, le goût du pays d'avant quitté, à l'âge de pas bien vieux pour l'enfer. Et si mon cœur voit le printemps au bord de l'eau, toi tu m'attends, t'en vas chanter joli pour sauver mon âme.
Vous auriez pu répondre à ma précédente question. Je ne joue aucun instrument. Ma voix est un instrument. Ben voilà. C'est quoi cette chanson que vous avez écrite enfant en français? C'est beau.
Cette chanson s'appelle « À la mer ». C'est un grand dossier. C'est une chanson qui m'est venue en berçant ma petite fille quand elle était toute bébé. Et j'avais cette phrase un peu... alors, c'est des phrases bizarres. Moi, je me suis inventé un peu une langue dans ce disque que j'appelle la langue des cœurs coulés. Et donc, il m'a bien fait soleil dessus. Il m'a bien plu. Bon, il m'a bien plu ce soleil-là, mais... Il y a une espèce de vieux marin qui traverse tout le disque. Et moi, je suis un peu ce vieux marin. J'essaie de me mettre un peu dans l'histoire de ce vieux marin qui traverse l'océan Atlantique. Ça va, ça vient. Il charrie des cargaisons... parfois belle, parfois dont il est moins fier.
Ça part d'une image, d'un souvenir, d'une sensation de l'enfance, de l'adolescence, ou de quelque chose d'entendu à la radio, dans un disque. Ça vient d'où l'inspiration, morceau par morceau?
Cette inspiration-là, souvent, elle vient. Enfin, je crois que je chante parce qu'il y a quelque chose à combler, quand même. Et c'est un chant, ce chant-là, et on. Moi, je peux dire qu'il sort quand même d'un vide.
Et comme une berceuse, puisqu'il accompagne votre... Oui,
exactement. Et puis, c'est compliqué. Un enfant qui s'endort, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué de trouver l'apaisement, de trouver le calme, de se sentir entouré. Et le chant, ça permet ça aussi. Ça nous permet à tous... je crois que la musique, ça nous permet ça beaucoup.
Olivier Delcroix, bonjour.
Bonjour Toufik.
Est-ce que vous avez été bercé, vous aussi, par d'aussi jolies voix quand vous étiez jeune?
Mais oui, effectivement, c'est grâce à vous que j'ai découvert la voix de Marion Rampal. Ce qui est amusant, c'est que, à l'occasion d'un Figaroscope spécial Disque Day, j'ai pu me replonger moi-même dans le jazz. J'ai racheté une platine. J'ai racheté des disques vinyles, j'ai redécouvert la profondeur du son, la pureté du son, et à travers un certain nombre de disques que j'ai réécoutés. Ça va de Bill Evans à Chet Baker, en passant par d'autres comme ça qui m'ont plu. Donc j'ai redécouvert ce jazz, effectivement un jazz moi qui m'a toujours plu depuis Tavernier, Round Midnight, en passant par Bird, qui sont ça c'est mes premières amours découvertes à travers le cinéma. Et puis écouter Marion Rampal, c'est aussi ce qui m'a amené quelque part à découvrir une muse, une lady jazz un peu ensorcelante, avec une voix, avec une énergie, un charme, moi qui m'ont beaucoup touché. Ce qui est amusant, c'est qu'elle parlait tout à l'heure d'une de ses chansons en disant oui, c'est une muse qu'on ne regarde pas au fond des yeux. Mais justement, Marion Rampal, moi j'ai un petit peu du mal du coup à vous regarder au fond des yeux parce que vous êtes une sirène, en fait. Il faut pas que je plonge complètement, faut pas que je vous regarde. Mais c'est vrai que oui, on est sous le charme de cette voix, ce grain, ce timbre, cette pureté, cette douceur, et en même temps, beaucoup d'énergie et de groove. Ce que j'aime beaucoup dans votre travail, du coup, depuis que j'écoute vos disques, ça fait 15 jours, 3 semaines là, que je suis dedans, je me rends compte du tout travail de métissage que vous effectuez entre le folk, le rock, le côté pop aussi, voilà, entre
la Nouvelle-Orléans, Marseille, la culture cajun, ouais.
Exactement, et ça je trouve ça formidable. Donc c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la berceuse, et en même temps qui est de l'ordre quand même de la sirène qui vous ensorcelle, qui vous fait avoir des frissons, qui vous fait dresser les poils sur les avant-bras quand j'écoute ça sur ma platine vinyle. Voilà.
Bah voilà, Marion Rampal, vous plaisez au Figaroscope et à France Culture.
C'est alors, un bon métissage.
Voilà, alors justement, cette semaine, dans le Figaroscope, Olivier Delcroix, vous nous proposez de nous balader dans Paris. Paris, pas seulement capitale des musiciens de jazz, mais aussi capitale de toutes les cultures européennes.
Mais oui, parce qu'en fait, les élections européennes, là, c'est ce week-end. Donc, on en a profité pour consacrer un dossier spécial, justement, qui va nous amener à voyager à travers l'Europe, découvrir ou redécouvrir l'Europe, mais sans quitter Paris. Voilà, et surtout grâce évidemment à l'actualité culturelle qui est toujours très riche au sein de la capitale. Et par exemple, je vais vous donner quelques exemples, mais on va mettre à l'honneur le Danemark avec l'exposition Hammershøi, ce fameux maître de la peinture danoise entre Vermeer et Hopper, qui a lieu au musée Jacques Marandré. Il y a aussi évidemment au musée de l'Orangerie une expo sur l'Allemagne et avec ces deux figures majeures de l'expressionnisme que sont Franz Marc ou August Mack. Et puis à l'Institut suédois, il y a plein de choses aussi. Il y a un groupe suédois d'ailleurs qui va jouer au moment de la fête de la musique à Paris, c'est LFSM. Et puis il y a une romancière grecque que j'aime beaucoup, c'est Maria Efstatiaki, je sais pas si je prononce bien, qui est traductrice, romancière, et qui va également être l'invitée de la BNF le 6 juin dans le cadre des rencontres avec les écrivains traducteurs. Voilà, donc il y a plein de choses. On va vous faire un espèce de grand carnet d'adresses comme ça pour vous balader en Europe sans quitter la capitale. Il y a par exemple au Reflet Médicis, un cinéma qui est cher à mon cœur, une sélection des 6 chefs-d'œuvre du cinéma pop polonais sélectionnés par Martin Scorsese. Et ça va d'Agnieszka Holland en passant par Train de nuit ou le manuscrit, le fameux manuscrit trouvé à Saragosse de Wojciech Haas. Voilà. Et ça, c'est des choses que j'ai effectivement vues, qui sont formidables, qu'il faut aller redécouvrir. Et puis sinon, les Irlandais, hein, on ne parle pas assez des Irlandais, mais ils sont formidables. Et notamment.
Et européens.
Et européens. Et oui, eux, l'exposition Tommy Ungerer.
À ne pas rater.
Ah ouais. À ne pas rater, bah, Tommy Ungerer.
Merci beaucoup Olivier Delcroix, merci beaucoup Marion Rampal.
Merci.
Demain on continue à être marseillais puisqu'on reçoit un des grands auteurs de bande dessinée de la cité phocéenne, Kamel Khelif. Merci de votre fidélité, bonne matinée sur France Culture, les petits matins continuent, on se retrouve demain donc.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Notre-Dame de Paris, un roman cathédral. Publié en 1831, le chef-d'œuvre de Victor Hugo a pour personnage principal un monument. La Bibliothèque nationale de France et France Culture vous invitent à une nuit littéraire vendredi 24 mai en ouverture du festival La Bibliothèque parlante. Présentation du manuscrit, lecture par Charles Berling, projection monumentale, émission et diffusion d'un feuilleton radiophonique avec Michel Bouquet. Notre-Dame de Paris, monument littéraire, le 24 mai de 19h à 22h en direct et en public de la BNF et jusqu'au bout de la nuit sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr.
Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
Si le ministre français de l'économie se veut officiellement confiant, le doute domine tout de même chez les salariés d'Ascoval, une aciérie du Nord. Hier, le repreneur britannique du site a été placé en redressement judiciaire. Nous y reviendrons dans un instant. Dans ce journal, nous irons aussi en Grande-Bretagne, où débute aujourd'hui le vote aux élections européennes, le tout sur fond de crise politique majeure dans le pays. Et puis, quel avenir pour le 737 MAX de Boeing ? L'avionneur américain sera au centre aujourd'hui d'une réunion avec les régulateurs aériens d'une trentaine de pays. Et ce, après deux crashs d'avions en quelques mois, analyse dans ce journal. C'est une réunion de crise autour de l'aciérie d'Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire recevra tout à l'heure à 15h30 la direction de l'usine, les représentants syndicaux et des élus des Hauts-de-France et de Valenciennes Métropole. Hier, le sidérurgiste britannique British Steel, dont la maison mère vient de reprendre Ascoval, ce sidérurgiste a été placé en redressement judiciaire. C'est un nouveau coup dur, quelques mois après l'abandon d'Altifort qui, lui, n'avait pas les fonds pour racheter Ascoval. Bruno Kobzinski est le porte-parole de l'intersyndicale sur place. Il assure que les salariés d'Ascoval sont au bord de la crise de nerfs.
Les gens n'y croient plus et le seul moyen de redonner confiance aux gens, c'est de trouver les mots et de trouver les éléments pour tenter de les ramener dans le chemin de la vraie réalité. Mais il faut les comprendre, quoi. C'est 4 ans de combat. C'est 4 ans de choses irréelles qui sont arrivées. À avoir 2 écroulements consécutifs comme on vient de l'avoir, ça ne s'est jamais vu dans le monde, quoi. 2 repreneurs qui lâchent la baraque à moins de 15 jours, psychologiquement, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Quand je dis que ça détruit une vie de famille, ça détruit une vie de famille. Et ça ne s'arrête pas qu'à la vie de famille. Il n'y a plus de vie, quoi. Il n'y a plus de vie.
Et une réunion est donc prévue aujourd'hui au ministère de l'économie. On ne sait pas encore si les représentants du groupe britannique British Steel sont conviés à cette réunion. La Grande-Bretagne est en crise politique plus que jamais en ce moment. Les Britanniques n'ont toujours pas trouvé d'accord pour sortir de l'Union européenne et ils votent donc ce jeudi pour élire 73 députés européens. Hier, devant l'impasse sur le Brexit, la ministre chargée du Parlement a démissionné. Une partie des conservateurs du pays réclame le départ de la Première ministre Theresa May et le scrutin du jour pourrait être fatal à Theresa May. Un scrutin qui va sans doute consacrer la défaite des grands partis de gauche comme de droite, Antoine Gignot.
Si les élections reflètent vraiment la vie politique britannique, le miroir, cette fois, risque de se casser en 1000 morceaux. À Londres, chez les conservateurs, le numéro 1 sur la liste milite pour un Brexit dur, alors que le numéro 2 est un europhile convaincu. Les querelles pourraient entraîner un fiasco électoral qui, après des mois de numéros d'équilibrisme, pourrait coûter sa place à la première ministre. À gauche, ce n'est pas plus clair. Les candidats promettent aux électeurs un deuxième référendum sur le Brexit, alors que plusieurs cadres s'y opposent. Leur stratégie pourrait pourtant permettre de limiter la casse, voire d'arriver en tête dans certaines circonscriptions, en prenant l'avantage sur le parti du Brexit de Nigel Farage. L'ancien dirigeant de UKIP a quitté le parti d'extrême droite. Il affirme qu'il le trouvait trop xénophobe. Il entend rassembler les électeurs déçus qui ont voté pour quitter l'Union européenne. Les sondages lui prêtent dans l'ouest des Midlands jusqu'à 40% d'intention de vote.
Autre pays, autre sondage, les Pays-Bas votent également ce jeudi pour la première poussée des populistes qui est attendue dans l'Union européenne. Le jeune député eurosceptique, anti-immigration et climato-sceptique Thierry Baudet est en passe de sortir vainqueur de ce scrutin aux Pays-Bas. Notons par ailleurs qu'en France, à 3 jours des élections, notre partenaire Ipsos Soprasteria a réalisé un nouveau sondage auprès de 1500 personnes. À l'approche du vote, les listes du Rassemblement national et de la majorité concentrent à elles seules près de la moitié des intentions de vote. Pour Yves Bardon, qui travaille sur les élections au département Public Affairs chez Ipsos, c'est le vote utile qui peut tout faire basculer.
Ces deux listes continuent de progresser avec chacune plus 0,5%, puisque maintenant le Rassemblement national est à 24% d'intention de vote et l'AREM à 23,5%, donc on est vraiment dans un mouchoir de poche. C'est extrêmement serré parce qu'on est dans une logique de vote utile et chacun des supporters des deux types de vote utile possibles se mobilise, puisqu'on voit que la certitude du choix s'affirme encore, avec un enjeu qui est simple, finalement, parce que soit on est contre Macron et contre l'Europe, et évidemment c'est le Rassemblement national qui va attirer, soit on est pour Macron et pour l'Europe, et à ce moment-là, c'est l'AREM qui peut remonter en tête et passer devant, mais ça se joue effectivement avec une marge d'incertitude importante.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Le jeune homme qui a agressé Julia Boyer, une femme transgenre, au mois de mars à Paris, a été condamné hier à 10 mois de prison, dont 4 avec sursis. Il a également interdiction d'entrer en contact avec la victime et de s'approcher de son domicile. La justice a fait son travail, a déclaré Julia Boyer à l'issue de l'audience hier. Autre procès, celui du gilet jaune poursuivi pour des injures antisémites à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. Les images avaient, en février dernier, fait réagir dans les médias. Antoine Maret était hier à l'audience pour France Culture. Voici son compte-rendu.
Alain Finkielkraut a fait le déplacement, mais il ne se porte pas partie civile. Le philosophe explique qu'il ne poursuit aucune vindicte personnelle.
Contrairement à ce qu'essaye de dire la défense, ce n'est pas moi en tant qu'individu avec ses opinions qui a été visé, c'est moi en tant que juif. Quand il dit la France est un nous, il présente un nous arabo-musulman qu'il oppose à un autre nous, celui dont je fais partie.
Le prévenu n'exprime aucun remords. Ce commerçant au chômage de 36 ans, sans casier judiciaire, assume chacun de ses propos. À la barre, il se noie dans des explications fumeuses sur un prétendu lobby sioniste. Et il ajoute « Le sionisme, c'est du racisme, ça fait du mal à tout le monde ». Pendant le visionnage des vidéos de l'agression, il plonge sa tête dans ses mains. Mais de retour à la barre, il persiste et signe et se pose en victime des médias. Son avocat, maître André Chamy.
Ses propos ont été déformés afin de servir une cause, c'est-à-dire celle de salir les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes devenaient un phénomène social qui posait problème au pouvoir politique, et le pouvoir politique a sauté sur l'occasion pour casser ce que j'appellerais l'élan des gilets jaunes.
La procureure appelle que l'on n'est pas au procès des gilets jaunes. Il ne s'agit pas d'un débat politique, mais d'un débat judiciaire. Elle dénonce un antisémitisme dissimulé derrière de l'antisionisme. Elle réclame à l'encontre du prévenu 6 mois de prison avec sursis.
Le jugement sera rendu le 12 juillet prochain. Aux États-Unis, une guerre ouverte est déclarée entre les démocrates et Donald Trump. Les démocrates du Congrès menacent le président de destitution pour entrave à la justice. Donald Trump est soupçonné d'avoir tenté d'étouffer les conclusions d'une vaste enquête russe dans laquelle il est visé. Très irrité par ces accusations, il a assuré hier qu'il ne dissimulait rien et quittait une réunion précipitamment. La journée s'annonce cruciale pour Boeing et ses 737 MAX toujours cloués au sol depuis les crashs d'Éthiopie. Ethiopian Airlines et de Lion Air, des accidents qui ont fait, je vous le rappelle, 346 morts. La FAA, le régulateur aérien américain, reçoit aujourd'hui au Texas des représentants de 33 pays, pays de l'Union européenne, mais également le Canada et la Chine. Boeing souhaite les convaincre que les failles de sécurité sont maintenant résolues. Et voilà ce qu'en pense Xavier Tittelmann. Il est spécialiste en sécurité aérienne et consultant chez le groupe de communication CGI.
Je pense surtout qu'ils vont faire une autocritique, qu'ils vont être totalement transparents sur ce qui s'est passé, sur le fait que bah, peut-être qu'ils avaient été trop loin dans la gestion autonome par Boeing de ses capacités à valider ses appareils. Ils vont s'engager à vérifier systématiquement tout ce qui va toucher aux commandes. On peut plus accepter qu'il y ait 90% d'un avion qui soit auto-certifié. Et donc ces parties-là qui sont cruciales, qui sont fondamentales, chaque évolution doit être discutée, doit être réfléchie et doit être validée par le régulateur. L'AFA va vouloir surtout obtenir l'aval de ses homologues en disant « si je le certifie, faites-moi confiance, ne refaites pas une nouvelle certification » parce qu'actuellement, on est dans une situation où les autres grandes nations, c'est-à-dire le Canada et l'Europe notamment, ont dit « vous allez le certifier, mais nous aussi, on va le certifier l'avion ».
Ce qui, j'imagine, prend du temps.
Évidemment, ça prend des semaines et des mois. Il y a aussi la question de la formation sur laquelle ils vont devoir réfléchir. Les États-Unis disent « nous, on pense qu'une formation théorique sur les évolutions sont suffisantes. Les Canadiens veulent absolument qu'il y ait du simulateur de vol sur la nouvelle version », ce qui aujourd'hui n'était pas indispensable. Il va falloir trancher, il va falloir des évolutions. Si l'avion vole avant la fin du mois d'août, ce serait vraiment un exploit, mais c'est l'objectif que se sont donnés les Américains.
Xavier Tittelmann, il répondait à Théo Hetsch lors du journal de 22h de France Culture hier soir. Le dépouillement a commencé en Inde après les législatives géantes dans le pays. Près de 600 millions d'électeurs se sont déplacés pour voter ces dernières semaines, 6 semaines au total pour ce scrutin. Il doit décider ou non de la reconduction du Premier ministre Narendra Narendra Modi et des nationalistes hindous au pouvoir. Les résultats définitifs pourraient être connus dans la journée, mais à l'instant, le gouvernement note une nette avance pour le parti du Premier ministre Narendra Modi lors des premières tendances de ce dépouillement. De belles éclaircies encore ce jeudi, notamment sur la partie est, du Grand Est jusqu'à l'Occitanie. Les nuages vont arriver par l'ouest aujourd'hui, avec un peu d'orage cet après-midi en Normandie. Ce matin, comptez 17 degrés à Strasbourg, 18 à Lille, 20 degrés à Paris et Bayonne, 22 à Perpignan. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure du journal des idées avec vous Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 et nous l'évoquions hier dans le journal, les États-Unis soupçonnent le régime syrien d'attaques chimiques et de menaces de représailles.
Oui. Dans un communiqué, le département d'État évoque une attaque au chlore dans le nord-ouest de la Syrie au matin du 19 mai. Selon sa porte-parole, cette nouvelle attaque présumée fait partie de la campagne violente menée par le régime Assad qui viole un cessez-le-feu qui a protégé des millions de civils dans la province d'Idlib. Depuis fin avril, les forces syriennes et leurs alliés russes ont en effet intensifié les attaques dans cette zone pourtant dite de désescalade. Comme le rappelle Christian Macarian dans l'Express, la région est au centre de deux axes essentiels, l'autoroute nord-sud de Damas à Alep et la voie ouest-est d'Alep à Latakié, le fief alaouite dont le clan Assad est originaire. Mais l'offensive provoquera un exode humain massif qui forcément se dirigera vers la Turquie où ont déjà trouvé refuge 3,5 millions de déracinés syriens, ce qui est inacceptable pour Erdogan dont l'échec à Idlib est patent alors qu'il s'était engagé à maîtriser les djihadistes qu'il avait d'abord soutenus, contraint de les lâcher en échange d'une liberté de manœuvre contre les Kurdes. Il pensait pouvoir, souligne Christian Macarian, donc conserver en Syrie une zone d'influence qui lui aurait permis de négocier avec les Russes et les Iraniens. La région d'Idlib est investie par les combattants des autres zones évacuées suite aux accords conclus pour leur reddition. De très nombreux civils ont également préféré s'y réfugier, soit parce que les bombardements massifs avaient détruit leurs habitations, soit par crainte des représailles, car le processus de réconciliation mis en œuvre par le régime syrien et son allié russe semble bien peu crédible, comme le dénonce la directrice pour le Moyen-Orient de Human Rights Watch, Lama Faki, citée par Luc Mathieu sur le site de Libération. Les combats ont cessé dans la majeure partie de la Syrie, mais rien n'a changé pour les services de renseignement qui continuent à bafouer les droits des opposants présumés à l'ordre d'Assad. L'absence de procédures régulières, les arrestations arbitraires et le harcèlement, même dans les zones soi-disant réconciliées, sont plus parlantes que les fausses promesses de retour des réfugiés et des déplacés, de réforme et de réconciliation. Sont visés notamment d'anciens responsables ou militants de l'opposition, des travailleurs humanitaires et des membres de familles d'anciens combattants anti-Assad. Au moins 500 personnes ont été arrêtées à Deraa, dans la Ghouta orientale et dans des villes au sud de Damas. À Deraa, le sort de 230 habitants arrêtés reste toujours inconnu. C'est le cas également de deux travailleurs humanitaires palestiniens arrêtés début avril au sud de Damas. Tous deux avaient signé l'accord de réconciliation après la reprise de leur ville par les forces syriennes en mai 2018. Leurs collègues affirment qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une convocation pour le service militaire et qu'ils n'avaient jamais fait partie d'un groupe armé d'opposition. L'organisation demande à la Russie, principal allié du régime, d'intervenir auprès de Damas pour faire libérer les détenus arrêtés arbitrairement et de fournir des informations sur le sort de ceux qui ont disparu. Les guerres qui ravagent aujourd'hui le Moyen-Orient n'ont pas vocation à se poursuivre éternellement et la région n'est pas vouée à être dirigée par des autocrates, estime Fawaz Gerges dans la dernière livraison de la revue Politique étrangère qui se projette dans les 10 années à venir. Le professeur de relations internationales évoque une guerre froide régionale opposant 3 acteurs clés, Iran, Arabie Saoudite et Turquie. au cœur des conflits actuels. Sur le terrain, la division criante du monde arabe entre une identité nationale et des identités tribales, religieuses et sectaires se manifeste par de violents affrontements. Ces identités secondaires ont émergé dans le vide laissé par des institutions étatiques défaillantes et des élites dirigeantes en mal de légitimité. Face aux aspirations populaires à la justice sociale, à une vie digne et à la liberté, ces élites postcoloniales ont souvent utilisé le passé pour justifier leurs politiques et leurs tentations autoritaires. Elles ont ainsi prolongé l'héritage toxique du colonialisme. Dans cette situation, les puissances occidentales ont préféré le plus souvent préserver le statu quo et n'ont pas soutenu les causes progressistes. L'équilibre idéologique de la région a donc généralement penché du côté des extrêmes. L'auteur, qui souligne que l'autoritarisme n'est pas le garant de la stabilité, mais au contraire la principale cause d'instabilité au Moyen-Orient, insiste sur l'élément clé du constitutionnalisme qui gagne du terrain et qui apparaît comme une solution pour sortir des troubles et reconfigurer les relations entre État et société. L'exemple de la Tunisie montre que des groupes aussi différents que les islamistes, les centristes et les sécularistes ont réussi à se mettre d'accord sur des compromis constitutionnels pour lancer une transition vers un nouvel ordre politique. 6h45, vous écoutez France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les élections européennes.
Voilà, ça y est, c'est le début du vote aujourd'hui pour les élections européennes. Dans deux pays, 26 députés à élire aux Pays-Bas, 73 au Royaume-Uni. Deux pays donc l'un tenté, l'autre en phase de sortie effective de l'Union européenne, où les partis eurosceptiques pour ces élections devraient, comme dans beaucoup, faire une percée sans précédent, eurosceptiques voire nationalistes contre européistes. Et des relations parfois tendues entre dirigeants. Alors la voie du compromis est-elle perdue? On voit ça avec vous, Sylvain Kahn, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes bien sûr géographe, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe, ancien producteur de Planète Terre sur France Culture et co-auteur tout récemment avec Jacques Lévy du Pays des Européens chez Odile Jacob. Qu'on dise un mot de la forme de ces élections. Hein. Vous parlez d'une société européenne dans le livre. Là, il y a 427 millions d'électeurs potentiels. Combien réels? Le dernier scrutin avait obtenu 43% à peu près de participation au niveau européen compris, c'était le taux le plus bas depuis 79. À première vue, il y a une chance que ce niveau remonte pour ces élections très contestées?
À première vue, non.
Ça, c'est la première... Ouais.
Oui, non, ça, le niveau d'abstention ne va probablement pas remonter, mais pour autant, cela n'invalide pas le fait que l'Europe est effectivement une société. C'est-à-dire que le fait même qu'il y ait dans une certaine mesure à la fois une convergence dans le fait que l'abstention est un phénomène qui touche l'ensemble des pays et en même temps qu'il y ait une très très grande diversité des taux de participation, comme ça va probablement être le cas, ça témoigne bien effectivement du fait que l'Europe est une société.
Mais c'est un peu ça que je voulais pointer au début, justement, vous expliquez encore une fois dans le livre qu'il y a grosso modo 70% des Européens qui se sentent citoyens européens. Là, le dernier sondage Eurobaromètre donnait 61% d'opinions favorables à l'Union européenne. Il y a une grande diversité, Pays-Bas, Danemark, Suède dans le trio de tête pour la participation. République tchèque, Italie, Portugal dans le trio de queue, ça veut dire que l'Union européenne est soutenue, mais ses électeurs se déplacent peu. C'est un peu un paradoxe, ça.
On a le même type de paradoxe à différentes échelles géographiques, c'est-à-dire que s'agissant des élections nationales, on voit bien que quand bien même les habitants d'un pays peuvent soutenir entre guillemets l'existence de leur pays, considérer que la France existe bien en tant que France et qu'ils se sentent français, pour autant on constate depuis 30 ans une baisse de la participation aux différentes élections nationales, en particulier aux législatives et puis aux régionales. Donc le fait de se sentir appartenir appartenir à une communauté, à la communauté d'un pays, n'est pas forcément un indicateur de la participation électorale. On a d'ailleurs une étude qui est parue assez récemment, qui a été publiée par ECFR, le European Council of Foreign Relations, qui a été publiée en français sur le site ecfr.eu, qui montre que, précisément, il y a plutôt un pourcentage assez élevé de personnes qui se considèrent comme européens, hein, ce qui va tout à fait dans le sens du postulat et de l'hypothèse qu'on développe dans Le Pays des Européens avec Jacques Lévy. Cette hypothèse, précisément, n'est pas du tout incompatible avec le fait que les gens puissent se sentir par ailleurs membres de la communauté nationale du pays dans lequel ils résident et dont ils ont la nationalité. Oui. Et donc, du coup, l'hypothèse qui est mise en avant par cette étude, c'est que la participation à des scrutins électoraux, ou au contraire le fait de s'abstenir, témoigne plutôt de l'adhésion ou de la non-adhésion à un type de, disons, de gouvernance ou de régime. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on peut aussi penser que l'abstention témoigne du fait qu'il y a une méfiance sans doute beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a 30 ans vis-à-vis de la démocratie représentative.
Oui, et précisément, on en parle depuis des mois, la montée des partis populistes un peu partout en Europe. Comment est-ce que vous l'analysez avant même qu'on ait les résultats? Là, je crois qu'ils sont donnés l'ensemble de ces trois groupes parlementaires eurosceptiques autour de 1/5, voire un peu plus, hein, des députés au Parlement. On verra les résultats. Mais est-ce que c'est plutôt la fin du bipartisme, comme on l'a vu au niveau national dans certains pays, à l'époque en Espagne par exemple, qui touche aujourd'hui, on va dire, les divisions Union européenne, ou est-ce que c'est une grande vague d'euroscepticisme plutôt?
Disons que plutôt que de grandes vagues, on est, me semble-t-il, confronté au fait qu'il y a une montée régulière depuis une quinzaine d'années. Les élections ont lieu vraiment tous les 5 ans, toutes les années en 9, toutes les années en 4. Et vous le disiez, effectivement, la grande famille des droites radicales et extrêmes qui est aujourd'hui représenté par trois groupes parlementaires au sein du Parlement européen, regroupe 20% des sièges au Parlement européen actuel, et c'est un pourcentage qui pourrait monter à 25%, certains disent même 27%, d'autres disent 24%, bon, disons en gros autour d'un quart, voilà, on passerait d'un cinquième à un quart, donc c'est pas un raz-de-marée, mais c'est en effet une progression tout à fait nette. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand vous parlez de bipartisme, vous faites bien sûr écho au fait que jusqu'au Parlement sortant, il y a toujours eu les deux plus grands groupes parlementaires, c'est-à-dire un grand groupe de droite qu'on appelle le PPE, le Parti Populaire Européen, qui est une grande famille qui regroupe ce qu'on pourrait appeler tous les partis de droite de gouvernement, qu'ils soient démocrates chrétiens, conservateurs. Ça va de la démocratie chrétienne de Madame Merkel jusqu'à Forza Italia de Monsieur Berlusconi, et même aujourd'hui du parti Fidesz de Monsieur Orban, qui pourtant n'a plus grand-chose de démocrate dans son pays, en Hongrie. Ouais. Et puis il y avait un autre grand groupe, le groupe des socialistes et des démocrates, SED, et donc effectivement jusqu'à présent, à eux deux, ces partis totalisaient toujours la moitié des eurodéputés. Bon, ça va très probablement, on verra les résultats bien sûr, ça va très probablement s'arrêter. Ces deux grands groupes n'auront plus à eux deux la moitié des sièges. Pour autant, ils ne formaient pas vraiment une majorité, ni non plus une distribution entre une majorité et une opposition. C'est-à-dire qu'en fait, le Parlement européen ne fonctionne pas exactement comme les parlements nationaux. Il y a 8 groupes parlementaires, ce qui est en soi d'ailleurs un peu un miracle, puisqu'il doit y avoir quelque chose comme 600 partis qui sont actuellement en train de concourir dans tous les pays aux élections. Donc passer de 600 partis en 24 langues à 8 groupes parlementaires, c'est-à-dire finalement moins de groupes parlementaires que dans le Sénat français par exemple, ça montre à quel point ça fonctionne. Il y a une vie politique européenne qui fonctionne, et la vie politique du Parlement européen, c'est plutôt de constituer des majorités d'idées, des majorités de projets. Donc en fonction des projets, il y a différents types de coalitions qui finissent par tomber d'accord avec des compromis pour voter un texte. Sachant qu'il n'y a pas véritablement un gouvernement qui est soutenu par une majorité et une majorité qui dépend d'un gouvernement. Voilà,
oui.
On est dans un système de parlement représentatif, on va dire, un peu différent des États membres nationaux.
Oui, donc on n'aura pas forcément un parlement aussi clivé, souverainiste, contre-européiste que la campagne elle-même pourrait le laisser présager. En tout cas,
absolument.
Voilà, peut-être une baisse très très forte quand même des deux partis ou des deux groupes principaux. Hein,
Une baisse très forte des socialistes qui vont faire moins de 20% des sièges. Alors que jusqu'à présent, ils faisaient 25% des sièges. Et dans le temps, ils ont même fait jusqu'à 30%. Et le PPE est aujourd'hui à peu près 28-30% des sièges et devrait passer à 25% du
bon,
sièges. Tout ça est au conditionnel, évidemment, puisqu'on attend de voir le résultat.
Exactement, ce sera jeudi prochain, et puis avec la bataille pour la présidence de la Commission européenne. Juste un dernier mot, on a beaucoup commenté, l'interview d'Angela Merkel, où elle parlait de friction ou de désaccord avec Emmanuel Macron. Il y avait quand même un grand projet de relance, au moins sur trois axes de la part d'Emmanuel Macron, l'axe franco-allemand, l'axe franco-italien, et puis une Europe qui voulait à plusieurs vitesses sur certains sujets. Est-ce que ce sera toujours possible après ces élections?
Vous savez, les campagnes électorales et les européennes à l'échelle de l'Europe n'y dérogent pas. Il y a souvent des mots plus durs, il y a souvent des promesses peut-être plus inconsidérées ou en tout cas plus ambitieuses que ce qui se passe dans les faits ensuite. Donc, clairement, il y a une vie politique européenne maintenant. Hein. On le voit bien, France, Italie, Allemagne, les trois pays que vous citez. Eh bien, il se trouve que les trois gouvernements n'appartiennent pas au même groupe parlementaire et chacun espère pouvoir obtenir le meilleur score possible, non seulement pour son parti dans son pays, mais surtout pour le groupe parlementaire et la famille européenne dans laquelle son parti s'inscrit. Comme Emmanuel Macron n'a pas du tout fait mystère depuis deux ans d'essayer de réaliser à l'échelle du Parlement européen, le type de scénario politique qu'il a réalisé à l'échelle de la France, il arrive à faire que la famille dans laquelle il s'inscrirait, appelons ça les libéraux centristes, pour aller vite, siphonnerait pour partie la droite européenne du PPE. Il n'est pas du tout illogique que dans cette période, Madame Merkel lui fasse comprendre qu'elle n'est pas du tout favorable à un tel scénario et qu'elle défende, elle, au contraire, le Parti populaire européen, puisque c'est très probablement du parti le plus arrivé en tête que sera issu le président de la Commission. Donc moi, c'est plutôt comme ça que j'interprète l'interview de Madame Merkel, bien davantage que par une grille de lecture couple franco-allemand.
Voilà, interview aux Deutsche Zeitung paru le 15. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, mais merci beaucoup pour déjà ce paysage européen. On renverra à votre livre, Sylvain Kahn, Le pays des Européens. Et merci pour vos explications aujourd'hui. Bonne journée.
Avec plaisir, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Couples et duos, Roméo et Juliette de Prokofiev, suite de Péléas et Mélisande de Debussy, double concerto de Dubignon, sonate pour deux violons de Prokofiev, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mico Franck, fêtent les couples et duos le jeudi 13 juin à 20h à l'Auditorium de Radio France, avec le violoncelliste Gauthier Capuçon et le pianiste Jean-Yves Thibaudet. Entrez au cœur du concert. Renseignements et réservations, maisondelaradio.fr.
Et ne réservez pas à 6h57, tout de suite c'est France Culture, les matins avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, on se demandait quel rapport entre Rihanna et François Ruffin.
Bon, c'est évident, Rihanna et François Ruffin sont au centre des préoccupations de LVMH. Voilà deux personnes dont le groupe de Bernard Arnault se soucie particulièrement, la chanteuse. Rihanna est interviewée assez longuement dans le Figaro. Alors il y a une photo d'elle dans son nouveau magasin parisien. Rihanna va lancer une nouvelle marque financée par LVMH et j'imagine que c'est par pudeur que Rihanna n'évoque pas François Ruffin et son journal Fakir, puisqu'on a appris cette semaine, grâce à Mediapart, que LVMH avait espionné François Ruffin lorsque celui-ci tournait Merci Patron, un film dont Bernard Arnault était le héros, comment dire, involontaire. Aucune question sur François Ruffin n'est posée à Rihanna, c'est bien dommage, car on comprend assez vite que le pari de Bernard Arnault avec Rihanna est de créer une marque lifestyle, comme on dit dans le jargon des modeux, autrement dit, une marque qui évoquera plus plus un style de vie qu'un style tout court. Comprenez, ça va être cher et pas génial, mais ça plaira aux snobs et à ceux qui veulent faire genre. Le problème, c'est que la marque de Rihanna, elle ne va s'adresser qu'aux femmes, alors qu'avec François Ruffin, il y avait la possibilité de s'adresser aussi aux hommes. François Ruffin aurait pu donner naissance à une marque lifestyle. On connaît son goût pour les vêtements de sport, les maillots de foot portés à l'Assemblée. Ça dégaine, comment dire, casual chic, le côté « je ne rentre pas ma chemise dans le pantalon ». Et puis François Ruffin, je parle de la marque lifestyle, était une manière évidente de faire du brand stretching, d'étirer la marque, puisque Ruffin n'est pas seulement célèbre pour son look, il est aussi pour son intérieur. Sa cuisine notamment, dans laquelle il tourne ses vidéos. Et là, je pense qu'une cuisine François Ruffin aurait facilement trouvé sa place entre les cuisines Bulltaupe et celles proposées par Armani Casa. Je ne parle pas des cuisines Ikea, parce qu'à mon avis, il faut positionner François Ruffin en haut de gamme. Créer une marque François Ruffin, FR, aurait demandé un peu d'investissement à LVMH. Ils avaient déjà tout. À quelle heure il sort de chez lui? Qu'est-ce qu'il prend au petit déjeuner? Remarquez peut-être que la marque François Ruffin sera lancée l'an prochain. Il suffit d'être patient. Comme le dit Rihanna dans le Figaro du jour, avec LVMH, nous nous concentrons sur l'intemporel.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, quelles conséquences? La presse économique s'inquiète, notamment le Financial Times. Aujourd'hui, on en parle aux environs de 7h40 avec Patrick Artus. Il sera notre invité. Il est professeur associé à l'école d'économie de Paris et chef économiste de Natixis. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.